Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Richard et son équipe.
Bienvenue à l'émission Un jour à la fois. Vous êtes en compagnie de Richard et René, une émission qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes, une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règle d'admission, toutes ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leur problème d'alcool peuvent en devenir membres. Basé sur le programme des 12 étapes, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique, comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un invité, membre de cette fraternité, qui va venir nous parler de sa vie, de ses difficultés, de son passé et de son expérience actuelle dans le rétablissement basé sur les 12 étapes des alcooliques anonymes. Alors, cette semaine, on a la chance d'avoir comme invité Pierre, un membre un petit peu plus âgé qui va venir nous parler de son vécu et de sa belle expérience à travers les alcooliques anonymes. Alors, c'est à toi, Pierre.
Alors, bonjour à tous. Mon nom est Pierre et je suis un alcoolique. Merci, Alcoolique Anonyme, de me permettre de transmettre le message. Pour moi, c'est très important de donner suite à tout ce que j'ai reçu dans Alcoolique Anonyme en transmettant ce message. Je vais commencer mon partage par une soirée bien spéciale où j'ai 30 ans. Je viens de souper avec mes trois fils et ma conjointe et j'ai passé une heure et demie avec mes trois fils à jouer, à vraiment rire ensemble et j'ai été les coucher en leur racontant une histoire et il était traditionnel que quand je sortais de la chambre de mes enfants, parce que je faisais ça tous les soirs, je me dirigeais vers le bar, je m'ouvrais, je me servais un verre et ma soirée se passait à consommer. Ce soir-là, en fait, en sortant de la chambre de mes enfants, ma conjointe m'a fait signe en me disant « Pierre, va pas au bar, viens t'asseoir dans le salon, on va jaser ». Et j'ai été m'asseoir avec elle et de but en blanc, sans prendre aucune précaution, elle m'a dit « Pierre, je dois te dire que la personne que tu deviens avec ta consommation, je ne l'aime pas et que si ça continue comme ça, je vais être obligé de quitter le foyer familial ». Ça faisait 10 ans que j'étais marié, j'étais convaincu, moi, que j'étais marié pour la vie, j'aimais cette femme, j'aimais mes enfants. J'avais jamais constaté, on m'avait jamais dit que ma personnalité se transformait par l'alcool. Je me suis pas battu à l'idée que peut-être que j'avais un problème d'alcool parce que j'étais quand même conscient que je buvais plus que les gens qui m'entouraient. Mais je considérais ça comme beaucoup plus comme une force de caractère qu'autre chose d'être capable de contrôler ma consommation comme je le faisais, en fait, comme je m'imaginais que je le faisais. Et je vais accepter de tenter de faire quelque chose. Ma conjointe, qui était une psychologue, elle m'a suggéré immédiatement alcoolique anonyme. Et juste le mot anonyme m'a complètement défrisé. Ça a fait non, moi je suis un professionnel, c'est pas vrai que je vais aller me cacher ou que je vais aller vivre des états de culpabilité, de honte, d'être atteint de quelque chose. Je vais aller chercher de l'aide chez des professionnels. Et je vais commencer plusieurs thérapies, en fait, pendant les 3 ans qui vont suivre. Je ne sais pas combien de thérapies j'ai essayé. J'ai même essayé la médication. J'ai été suivi par les médecins. J'ai fait plein de choses pour essayer de m'en sortir. Et ma consommation a quand même continué à augmenter malgré tout ça. J'avais pas un degré d'honnêteté très fort par rapport à la maladie. J'avais énormément de difficultés à reconnaître que ça pouvait être une maladie. Je considérais vraiment que c'était une question de volonté personnelle. Et comme j'étais quelqu'un de déterminé, qui fonçait dans la vie, qui réussissait bien, qui avait une réputation importante, je me disais, non, c'est pas vrai que c'est pas moi qui va contrôler ma consommation. Et j'ai vraiment de travailler très fort pendant ces 3 ans-là pour essayer de contrôler ma consommation d'alcool. Pendant ces 3 ans-là, ma conjointe a continué à m'envoyer des ultimatums comme ça en me disant « Pierre, je vois bien que tu fais des efforts, mais c'est de pire en pire, c'est de pire en pire. » Et je lui disais « Ben écoute, je sais pas quoi faire de plus. » Elle me revenait beaucoup avec Alcoolique Anonyme. Elle n'avait pas de problème d'alcool, mais elle connaissait à cause de sa profession le mouvement. J'étais incapable d'accepter d'avoir à aller à Alcoolique Anonyme pendant ces 3 ans-là. Au bout de 3 ans, ma conjointe a perdu patience et est partie vivre avec un autre homme. Pour moi, ça a été un coup de batte en pleine face et ma vie se terminait là. Ma réputation était atteinte. J'ai trouvé ça épouvantable qu'elle faisait ça, qu'elle nous faisait ça à moi et mes enfants. J'ai obtenu la garde des enfants dès qu'elle a quitté. Et pendant les 2 ou 3 mois qui ont suivi, j'ai essayé en tant bien que mal de m'occuper de mes fils, mais je voyais bien que j'étais incapable de prendre cette responsabilité-là. L'alcool était devenu tellement un besoin, que c'était tellement obsessif que l'alcool passait avant mes enfants. Donc, j'ai retourné les enfants à ma conjointe et je me suis enfermé chez nous à boire à journée longue. Je voulais plus rien savoir de la vie. J'ai tout laissé tomber, puis il y avait plus rien à faire. Ça va durer quelques mois, ce régime-là, où je buvais. J'étais chez nous, puis je buvais. Puis j'avais tout coupé les contacts partout avec mes amis, puis avec mes activités, puis tout ça. Et un samedi après-midi, après encore avoir bu toute la nuit, je me suis levé, j'étais au verre du matin, je me suis rendu au frigidaire, j'ai ouvert je sais pas combien de bières pour essayer de faire décoller ce qu'il y avait dans l'estomac pour être capable de recommencer à boire. Et Alcoolique Anonyme m'a passé dans la tête. Et dans un geste désespéré, j'ai appelé à Alcoolique Anonyme. Il y a une dame qui va me répondre. Je me rappelle pas du tout de ce qu'on a discuté, mais chose assez particulière, elle va me dire à un certain moment donné, Pierre, essaie de pas boire pour le reste de la journée, puis va faire tel meeting. J'ai accepté, puis chose quand même incroyable, je n'ai pas bu pour le reste de la journée. Et j'avais déjà bu quand même pas mal en me levant. J'ai été faire ce meeting-là, mais pendant les 4 ans que j'avais essayé de m'en sortir tout seul, je m'étais construit tout un monde de préjugés sur Alcoolique Anonyme. Je m'étais fait toutes sortes d'idées vraiment négatives sur le mouvement. Ce qui a fait, en fait, que quand je suis rentré dans le meeting, en arrivant en retard, évidemment, parce que je voulais pas être pris à parler au monde, j'ai entendu un partage qui m'ont pas impressionné du tout. Je trouvais que les gens étaient faibles, que les gens étaient vraiment qu'il n'y avait pas de colonne. J'ai jugé tout le monde qui était dans la salle. Je voyais des ratés partout. Donc, j'ai quitté le meeting avant la fin du meeting pour retourner chez nous et boire encore pendant un certain temps, pendant plusieurs semaines. Et j'ai refait le même processus quelques semaines après. J'ai rappelé à l'Alcoolique Anonyme et chose assez particulière, c'est la même dame qui m'avait répondu la première fois qui va me répondre. Et j'aurais même pas besoin de m'identifier. Elle se rappelle de moi. Moi, je me rappelle pas de ce qu'on avait jasé, mais elle va me dire, Pierre, écoute, je suis vraiment content que tu me rappelles. Écoute, j'ai fait une erreur quand on s'est parlé l'autre fois. J'ai constaté en fermant le téléphone que je t'envoyais pas dans un meeting qui te convenait. J'aurais dû t'envoyer dans un meeting pour intellectuels. Moi, je vais acheter ça tout de suite. Là, je veux dire, il y avait une personne, en quelque part, sa planète Terre, qui reconnaissait que j'avais de la valeur. Et juste à cause de ça, je vais accepter d'aller faire un autre meeting. Et je vais me rendre dans un grand meeting à l'époque. On remonte, en fait, à 39 ans. Là. Donc, 39 ans, il y a 39 ans, en fait, il y avait des très gros meetings. Et celui-là, c'était un vendredi soir à Notre-Dame-des-Neiges, c'est le meeting Notre-Dame-des-Neiges, à Côte-des-Neiges. Et c'était reconnu comme un meeting jet-set. Là. Vraiment, il y avait beaucoup de vedettes, il y avait toutes sortes de monde. Et moi, j'allais là vraiment pour rencontrer un intellectuel. Donc, je suis arrivé au meeting, cette fois-là, avant que ça commence. J'ai regardé comment ça se passait. Il y a plein de monde qui ont passé en avant à aller jaser. Il n'y en a pas un qui s'est identifié comme intellectuel. Ils se sont tous identifiés comme alcooliques. J'étais très déçu. J'avais l'impression de m'être fait avoir encore une fois. Et je vais voir la boîte à littérature et je vais me dire, Pierre, après le meeting, là, va acheter leur littérature. Toi, t'es un gars intelligent, t'es un intellectuel, tu vas être capable de comprendre leur méthode et t'aurais plus besoin d'alcooliques anonymes. Et j'ai entendu le partage qui me convenait pas du tout parce que la personne, ce que je retiens de ce partage-là, c'est que le gars, il faisait des arts martiaux pour se sortir de son, pour apprendre à vivre sans alcool. Les arts martiaux me disaient rien à l'époque. Et je vais me rendre à la boîte à littérature à la fin du meeting. Et je vais essayer de choisir, parce que c'était immense la boîte à littérature, des choses qui pouvaient m'allumer. Il n'y avait rien qui m'allumait. Et il y a quelqu'un qui va arriver en arrière de moi puis qui va me dire « C'est quoi que tu cherches? » Je vais me retourner de bord. Puis c'est pas le genre de personne à qui habituellement je donnais le droit de m'adresser la parole. C'était pas de ma classe pantoute. Mais cette personne-là avait quelque chose dans les yeux de vraiment extraordinaire. J'ai pogné le fixe sur ses yeux, là, puis j'ai pas été capable de penser à autre chose. Et j'ai pas été capable de répondre à sa question non plus, c'est quoi que je cherchais. Et il va me dire, écoute, moi, je peux pas t'aider au niveau de la littérature, mais si tu veux, on va aller prendre un café ensemble, puis on va jaser. Et moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans les yeux de ce personnage-là. Et je vais accepter d'aller prendre un café avec lui, puis il va m'amener dans un restaurant où tous les membres, j'ai appris par après que tous les membres se réunissaient après le meeting, et on va s'asseoir avec 4 personnes à une table pour prendre un café, puis jaser. Et pendant 1h30, 2h, ces 5 personnes-là vont me partager leur expérience. Je trouve fascinant la façon dont ils parlent de la maladie, la façon dont ils parlent de comment ils ont vécu leur consommation, comment ils s'en sortent actuellement. Je suis fasciné par leurs histoires. J'en veux. Je leur demande de continuer, puis je suis vraiment impressionné par ça. Et il va arriver quelque chose d'extraordinaire ce soir-là, c'est que je vais tomber en amour avec Alcoolique Anonyme. Et le deuxième point, c'est que quand je vais rentrer chez nous le soir, je vais avoir perdu la soif.
Alors, merci Pierre pour cette belle entrée en matière. On peut voir hein, que l'alcool nous déchire à tel point que même nos enfants passent en second derrière l'alcool. Alors, c'est vraiment une belle entrée en matière. On va poursuivre avec le deuxième segment après la pause.
Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les Alcooliques Anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les Alcooliques Anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les Alcooliques Anonymes, nous pouvons aider.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de Richard et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Vous êtes toujours en compagnie de René et Richard. Voici un court texte inspiré de la littérature des Alcooliques Anonymes, tiré des réflexions de Bill. Dès qu'on se penche sur une relation embrouillée ou rompue, les émotions passent à la défensive. Pour échapper à l'examen de nos torts envers quelqu'un, nous nous tournons avec animosité sur le mal qu'il nous a fait. Triomphalement, nous sautons sur cette inconduite et nous en faisons l'excuse parfaite pour atténuer la nôtre ou l'oublier. Ici, nous devons nous prendre en main sérieusement. Rappelons-nous que les alcooliques ne sont pas les seuls à être victimes d'émotions déréglées. Dans bien des cas, il s'agit de gens qui souffrent et que nous avons rendus plus malheureux. Si nous sommes maintenant prêts à demander le pardon pour nous-mêmes, pourquoi ne pas commencer à pardonner aux autres une fois pour toutes? Alors, sur ces belles paroles, nous allons voir si Pierre a pu, ou lui aussi, réussir à pardonner. Il nous en a fait part aussi dans sa première partie en remettant ses enfants à sa femme. C'est un grand geste d'humilité qu'il a pu faire pour pouvoir mieux se prendre en main. Alors, on voit la suite avec Pierre.
Alors, j'ai... Le lendemain de cette rencontre-là avec ces membres des Alcooliques Anonymes-là, dans l'after meeting, j'étais élevé de peut-être depuis une dizaine de minutes que je reçois un téléphone, c'est celui qui m'a accueilli à boîte à littérature, qui me demande à faire un premier 24 heures. Et je dois vous avouer que je savais absolument pas ce que ça voulait dire, mais j'étais prêt à faire n'importe quoi à ce moment-là, étant donné que j'avais perdu la soif puis que ça me tentait pas de boire ce matin-là, alors que je buvais toujours le matin. Et pendant la fin de semaine qui a suivi, les 5 membres qui m'avaient accueilli la veille se sont occupés de moi. Ils m'ont pas lâché d'une semelle. Ils m'ont fait faire plein de meetings, mais ils se relayaient à tour de rôle pour rester avec moi pour pas que je sois seul. Ça a été un départ assez fulgurant dans Alcoolique Anonyme. Moi, je suis tombé vraiment en amour avec Alcoolique Anonyme, mais très rapidement, là, j'ai embarqué dans Alcoolique Anonyme. Je me suis mis à faire beaucoup de meetings. J'ai été rapidement impliqué dans Alcoolique Anonyme. Dans les 6 premières années de mon abstinence, les choses se sont vraiment bien replacées. J'ai reconstruit ma vie. D'abord, j'ai commencé à reconstruire ma santé parce que j'étais vraiment magané. J'ai arrêté de fumer. Je me suis même entraîné. J'ai réglé la garde des enfants avec ma conjointe parce qu'elle vivait avec quelqu'un d'autre. Et j'ai fait une première amende honorable à ma conjointe peut-être un an et demi après avoir commencé avec vous, Alcoolique Anonyme, où j'ai été reconnaître mes torts, j'ai été reconnaître que ma consommation était la cause de notre rupture, que comme elle avait déjà quelqu'un d'autre dans sa vie, qu'on continuerait pas notre vie de couple, mais qu'on pourrait faire un engagement de continuer notre vie de parents auprès de nos 3 enfants de façon harmonieuse. Et je peux vous dire que même après toutes ces années-là, plus de 30 ans, on continue toujours à s'occuper de nos enfants tous les deux ensemble. Ça a toujours été harmonieux, même si on a 2 façons tout à fait opposées de s'occuper de nos enfants. Mais c'est vraiment harmonieux. Les 6 premières années, comme je vous ai dit, tout allait bien. Au bout de 6 ans, moi, je suis rendu un monsieur AA, là. Je suis propriétaire de 2 groupes. Je suis RDR dans le district 8701. J'ai plusieurs filleuls, puis je suis vraiment... Je m'attends, quand je rentre dans une salle de meeting, à ce que tout le monde arrête de parler pour me regarder. Là. Je suis vraiment rendu là, tu sais. Et il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ça fonctionne dans tous les domaines, sauf le domaine affectif. Et un soir, je suis à l'auberge, à l'oratoire, en train de faire l'accueil à la porte avec un de mes amis. Puis je lui raconte que moi, me semble un gars aussi important que moi dans l'alcoolique anonyme, ma puissance supérieure devrait me mettre une femme qui me convient dans ma vie. Ça serait le bonheur parfait. Et il y a une femme qui rentre à l'autre bout de la salle pendant que je lui dis ça, puis je lui dis à mon chum, si elle me dit bonsoir ce soir, ça va être la volonté de Dieu. Elle va traverser la salle après avoir passé par la salle de toilette, elle va s'arrêter devant moi et elle va me dire bonsoir Pierre, puis ça va devenir la volonté de Dieu. J'ai réalisé avec le temps et beaucoup de souffrance par après que la volonté de Dieu, que je faisais la volonté de Dieu vraiment quand elle correspondait à la mienne. Hein. Et ce soir-là, je vais commencer une relation affectivement avec cette dame-là, puis je vais aussi commencer une ivresse mentale qui va durer près de 2 ans. Je vous ai dit que ça allait super bien dans tous les domaines de ma vie, sauf le domaine affectif. Pour être capable de faire fonctionner ce domaine-là, le domaine affectif, je me suis mis à négliger tout ce qui allait bien dans ma vie. J'ai lâché mes implications dans l'alcoolique anonyme, j'ai commencé à abandonner mes filleuls, j'avais pas le temps de m'occuper d'eux autres, je m'occupais de construire cette relation-là. Et au bout d'un an et demi, mon fils aîné, qui est rendu à 19 ans, va venir un soir avec sa petite copine, m'annoncer que sa petite copine est enceinte. Ils ont 19 ans tous les deux, ils sont étudiants à l'université, tout le kit, puis ils veulent avoir mon opinion, est-ce qu'on garde ou non l'enfant, etc. Puis finalement, ils arrivent à la conclusion qu'ils veulent garder l'enfant, et je suis vraiment fier d'eux autres. Et il me raconte qu'il voudrait bien faire ça selon les règles, puis il voudrait se marier. Moi, je suis en ivresse mentale. Là. J'ai repris le contrôle de ma vie d'aplomb, puis c'est moi qui mène, puis ça se passe à ma façon. Donc, je vais leur organiser une noce comme un alcoolique qui n'a pas de mode de vie. Organise une noce, tout est gros. On y met le paquet partout, les voyages dans le sud, restaurant Hélène de Champlain comme réception, puis envoie, on y va, tu sais. Et la journée des noces, après la cérémonie, à réception, je vais faire un petit discours pour souhaiter bonheur et prospérité à ces nouveaux mariés-là. Et je vais leur souhaiter à votre santé, j'ai un verre de champagne dans les mains, et je vais boire ce verre de champagne-là, puis je vais partir sur une rechute qui va durer 3 ans. Ce matin-là, moi, si on m'avait dit « Pierre, tu vas boire », j'aurais dit « Non, je suis un alcoolique ». Ça m'était jamais passé par l'idée que je boirais, que je reboirais un jour. Mais j'étais en ivresse mentale, et je réalise avec le temps que c'est juste parce que c'était pas arrivé pendant cette ivresse mentale-là d'avoir un verre en main, parce que probablement que je l'aurais bu aussi. Et je vais me retrouver à la fin de cette rechute-là, enfermé chez nous à boire la journée longue, comme la première fois, de façon beaucoup plus malsaine, beaucoup plus profonde, où je voulais vraiment mourir, puis je voulais prendre les moyens pour mourir. Et là, je vais vous parler de mon parrain un peu. Mon parrain, c'est le gars qui m'a accueilli à Boîte à littérature, qui 39 ans après est encore mon parrain. On a développé une relation extraordinaire tous les deux. Et pendant mes 3 ans de rechute, au moins une fois par semaine, il m'a appelé ce gars-là. Jamais pour me juger, jamais pour me condamner, simplement pour me dire qu'il s'ennuyait de moi, qu'il était là pour moi. Et dans les derniers temps, il voyait que je calais là, dans mon bas-fond, là. Et il m'a dit, il me le répétait en fait à chaque téléphone, « Pierre, n'importe quand, 24 heures par jour, je suis là pour toi si tu veux m'appeler. » Et semble-t-il qu'un soir, je l'ai appelé. Il s'y est venu avec sa conjointe chez moi, puis ça a été très rapide, ça a été urgence santé, on m'a hospitalisé parce que j'étais vraiment en train de crever chez nous. Enfermé chez nous, je mangeais plus, j'étais juste à l'alcool, puis on m'a hospitalisé. Puis évidemment, dans des états comme ça, on nous envoie rapidement en psychiatrie. Et c'est suite à des discussions avec mon parrain que les médecins ont accepté, après m'avoir désintoxiqué, de m'envoyer dans une maison de thérapie pour alcooliques, où j'ai été faire 2 semaines de thérapie. Chose assez étonnante, quand je suis entré dans cette maison de thérapie-là, j'avais une soif terrible. Je comprenais pas là, que j'acceptais de m'en aller là. Et rapidement, on m'a installé en attente là, que la thérapie commence. J'étais assis avec plusieurs alcooliques qui probablement commençaient leur thérapie aussi. Et en me mettant à jaser avec eux autres, tout à coup, je me suis aperçu que la soif avait disparu. Ça a été miraculeux. J'ai perdu la soif cette fois-là. Et la soif n'est jamais revenue. je me suis réembarqué rapidement dans l'alcoolique anonyme à être impliqué, puis à vraiment faire du meeting, puis tout ça. Et 3 ans après mon retour dans l'alcoolique anonyme, où les choses s'étaient bien placées dans ma vie, j'avais recommencé à fonctionner, à me reconstruire une vie, tout ça. Je vais avoir un petit contact avec le ministère du Revenu qui va me dire que ben pendant mes 3 ans de rechute, je me suis pas occupé d'eux autres, puis qu'il était temps que je prenne soin d'eux autres. Ils sont venus me chercher avec beaucoup de réclamations, c'était assez impressionnant. Alors, je vais être dans une salle de meeting un soir, puis je parle de ça avec un de mes chums, puis il m'explique que c'est à cause de ma rechute, bien sûr, mais que on nous apprend à reconnaître nos torts, puis à les réparer, puis que j'ai fait du tort à la société en ne payant pas mes impôts pendant ces 3 ans-là. Et que pour être bien, pour mon rétablissement, il était important que je répare mes torts. Donc, il me dit, vends ta propriété, sors tes placements, mais règle tout ça, t'es en forme, même si tu recommences à zéro au niveau financier, c'est pas grave, toutes les choses vont se replacer, puis tu vas être en paix. Et je trouve qu'il est pas mal intelligent, ce gars-là. Puis le soir, je vais rentrer chez nous après le meeting, puis ça passera pas. Et je vais repartir dans une ivresse mentale épouvantable où je vais travailler pendant 1 an et demi de temps, 6 jours par semaine, 10-12 heures par jour. Heureusement, je continue à faire du meeting pendant ce temps-là. Et mes chums me disent, Pierre, ça n'a pas d'allure, tu vas péter aux frettes. Puis je leur réponds, ça va passer ou ça va casser. L'alcoolique déchaîné qui veut absolument que ça se passe à sa façon. Et au bout 1 an et demi, ça a cassé. Puis je suis tombé en profonde dépression, dépression majeure, un gros burn-out de travail où toutes les lumières se sont éteintes partout. Il faisait noir partout, il n'y avait plus rien qui fonctionnait dans ma vie. J'avais absolument plus aucune énergie, aucune capacité de concentration. J'avais des pertes de mémoire. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait, mais vraiment plus rien, là, très profondément. Et c'est juste dans cet état-là que pour la première fois depuis tout ce temps-là que je fréquente Alcooliques Anonymes, que je vais accepter de demander de l'aide. Moi, à l'âge de 15 ans, là, je peux vous dire que à cause de certaines expériences de vie avec mon père, j'avais décidé, en fait, que j'aurais plus jamais besoin dans ma vie de demander de l'aide à personne. Et j'avais respecté ça jusqu'à ce moment-là. Et la cause était tout simplement que j'avais vécu beaucoup de rejet, là, parce qu'on m'avait mis pensionnaire. Je viens d'une famille de 10 enfants, puis j'étais le seul à être placé parce qu'ils ne savaient plus quoi faire avec moi. Puis j'ai vécu beaucoup de rejet. Et à 15 ans, quand je suis retourné dans le milieu familial, on m'a expliqué que l'intégration se faisait pas bien, puis on a décidé de m'envoyer chez une des sœurs de ma mère à Montréal, alors que je viens des cantons de l'Est, pour aller continuer ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris cette décision-là de m'arranger tout seul.
Merci Pierre. Hein? Puis une des forces justement du mouvement des alcooliques anonymes, c'est justement la force du « nous ». Et toi, tu as fait l'expérience de la force du « je » et ça t'a ramené dans des ivresses mentales. Mais par chance, tu as pu t'en apercevoir et revenir avec cette merveilleuse force qu'est la force du « nous » des alcooliques anonymes. On poursuit après la pause.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire,
j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Richard et son équipe.
Re-bienvenue à ce troisième segment de l'émission Un jour à la fois en compagnie de Pierre, de René et de Richard. Alors, si vous aimez l'émission et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller visiter notre site internet unjouralafois-émission.org. Ceci te donnera accès à notre banque de fichiers, de partage archivé pour écoute sur tous tes appareils intelligents, tels que le téléphone, ta tablette et ton ordinateur, ainsi qu'aux diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio. Tu pourras aussi nous y écrire par courriel pour toute question ou commentaire et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager ton histoire de rétablissement personnel et faire comme Pierre aujourd'hui, venir aider un alcoolique qui souffre encore. Alors, on va poursuivre avec le partage de Pierre qui en était rendu avec ses grandes ivresses mentales qui perdurent quelque peu et allons voir comment il va faire pour s'en sortir.
En fait, c'est dans cet état-là, moi, de détresse profonde, d'incapacité de fonctionner, de quoi que ce soit, que j'ai accepté pour la première fois de demander de l'aide. Et il y a trois personnes dans l'Alcoolique Anonyme auxquelles je vais m'accrocher pour être capable de me sortir de cet état-là. J'ai mon parrain, j'ai mon ami qui m'avait suggéré si fortement de pas aller en ivresse mentale en me disant comment faire avec l'impôt. Et il y a une dame qui va devenir ma marraine, une dame qui a travaillé dans les maisons de thérapie pour alcooliques pendant toute sa carrière, et qui vont m'aider à sortir de ça. Moi, ces trois personnes-là m'appelaient le matin régulièrement et ils me disaient toujours les mêmes affaires. En fait, ils m'ont fait pratiquer pendant 2 ans les deux choses bien simples. La première, ils me posaient toujours la question en commençant « Qu'est-ce que tu as fait ce matin depuis que tu es debout? » Et j'étais capable de leur dire dans l'état où j'étais, peut-être que j'avais pris un jus d'orange ou que je m'étais fait un café, mais ils me répondaient toujours « Pierre, dis merci à ta puissance supérieure. » T'as été capable déjà de faire ça ce matin. Ils m'ont fait pratiquer la gratitude dans tous les petits détails du quotidien pendant 2 ans. Et la deuxième chose qu'ils me disaient, c'est « Pierre, tu t'habilles, tu t'en vas faire un meeting et tu vas pas faire un meeting pour entrer dans une salle puis aller raconter au monde comment tu fais pitié. Tu vas faire un meeting et rentre dans la salle. Quand tu regardes le monde qui est là, va enligne-toi sur quelqu'un qui parle à personne, qui est tout seul, qui a la face aussi longue que toi, va t'asseoir avec lui puis va jaser avec. » Et c'est ce que j'ai fait. J'allais jaser avec ce genre de personnes-là qui parlaient à personne, puis j'ai réalisé dans plusieurs cas que ces gens-là vivaient les mêmes états intérieurs que moi, qui étaient des complètement perdus, qui savaient pas comment partager, tout ça. Et je me suis fait de bons amis. Il nous est dit, hein, dans la définition d'Alcoolique Anonyme, nous sommes une association d'hommes et de femmes qui partageons nos expériences. Il fallait que je puisse partager mes expériences avec quelqu'un qui était capable de me comprendre puis qui était capable de me répondre parce qu'il vivait les mêmes affaires. Et ensemble, on a essayé de s'en sortir. Comme résultat de ces efforts-là, pendant 2 ans, en fait, je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital couché. Je venais de faire une thrombose. J'avais un début de paralysie partielle du côté droit. J'avais perdu la vue de l'œil droit. Et en 3e matin, je me rappelle, je suis couché sur mon lit, puis je suis en profond ressentiment contre ma puissance supérieure. Je comprends pas qu'après 2 ans d'efforts comme ça, il m'ait envoyé ça comme épreuve de vie. Et le téléphone sonne, c'est ma marraine qui m'appelle pour prendre de mes nouvelles, et je lui partage mon ressentiment envers ma puissance supérieure. Elle m'écoute, elle attend que j'aie fini de partager mon ressentiment. Et par la suite, elle me dit « Pierre, elle dit, si ça t'intéresse, elle dit... je vais t'accompagner, puis on va faire une troisième étape ensemble sur uniquement sur ton état de ressentiment envers ta puissance supérieure. Et elle va m'amener avec plein d'amour dans la troisième étape à me montrer comment confier ma volonté et ma vie à ma puissance supérieure par rapport à ce que je vivais, que j'avais pas le pouvoir de me libérer de mon ressentiment. Et il va se passer quelque chose d'inattendu dans cette démarche-là, je vais tomber en paix. Mais je vais vraiment connaître une paix intérieure que j'avais jamais connue de ma vie, un bien-être intérieur. J'ai été vraiment étonné de ça et j'ai voulu m'accrocher à ça. Ça n'a pas duré longtemps, ça a peut-être duré une vingtaine de minutes, le temps d'être en contact avec ma marraine, mais j'ai vraiment dit ça, c'est ça que je veux vivre comme état intérieur pour le reste de mes jours, tant que c'était agréable. Et puis je peux vous dire que je me suis vraiment accroché à ça. Et heureusement, parce que moi, cette dépression-là, en fait, et d'autres problèmes de santé physique m'ont amené à être 7 ans sans pouvoir travailler. Je me suis servi beaucoup de ces 3 personnes-là qui m'ont encore accompagné, qui m'ont montré comment vivre ce simple programme-là. Et j'ai passé à travers des grosses difficultés, des opérations, des deuils, toutes sortes d'affaires pendant cette période-là. Et au bout de 7 ans, les médecins m'ont dit « Pierre, tu peux retourner travailler ». Et j'étais quand même connu dans mon monde professionnel, j'ai annoncé aux gens que j'étais disponible à retourner sur le marché du travail et j'ai eu des offres d'emploi vraiment intéressantes. Et je les refusais constamment parce que c'était des offres d'emploi où je devais retourner travailler comme j'avais toujours travaillé en fou. Puis la pratique du mode de vie m'avait montré à mettre de l'équilibre dans ma vie, à mettre le travail à sa place et non pas à prendre toute la place. Et j'étais pas prêt à retourner travailler dans ces conditions-là. Après 9 mois de tentative pour retourner travailler, j'étais un peu découragé et j'ai demandé de l'aide à une dame qui avait toujours travaillé en thérapie avec les alcooliques. Et elle m'a offert de passer une semaine avec elle pour faire une espèce de bilan de ma vie. Et le premier matin, je me suis assis avec elle, puis je lui ai parlé de mon travail, puis elle m'a dit « As-tu tout fait, Pierre, ce que tu avais à faire pour essayer de recommencer à travailler? » Et j'ai admis qu'effectivement, pendant 9 mois, j'avais vraiment mis le paquet pour essayer de retourner travailler. Et elle m'a dit « Bon, ben, on va mettre le mode de vie en pratique. Là, tu vas lâcher prise. Tu as fait ce que tu avais à faire. Laisse travailler ta puissance supérieure. » Elle dit « Va t'amuser ». Et j'ai aimé cette réponse-là. Mais ça faisait à peu près une demi-heure que j'étais avec elle, puis je devais passer une semaine. Là, je me suis dit « Ben, merci beaucoup, je vais retourner chez nous ». Elle dit « Non, t'es pas venu pour ça. Assis-toi, on va parler ». Et elle me connaissait vraiment profondément. Et elle m'a, pendant cette semaine-là, amené à faire une 4e et une 5e étape sur ma famille d'origine. J'ai eu des sérieux problèmes sur ma famille d'origine à un point tel que pendant des décennies, je l'ignorais, je leur ai fait la tête, j'étais vraiment pas en communication agréable avec la famille à cause effectivement de ce qui était arrivé de 11 ans à 15 ans entre mon père et moi, où on m'avait vraiment exclu de la famille. Et mes parents étaient morts à l'époque. Ils m'ont montré comment faire une démarche de pardon auprès de mes parents, à part la prière, la méditation, etc. Et j'étais capable de faire cette démarche de pardon-là. Et par la suite, en fait, au bout de cette semaine-là, j'en ai conclu que je devais aller rencontrer mes 8 frères et sœurs pour faire la paix avec ces personnes-là aussi. Et j'ai été rencontrer chacune de ces personnes-là pour faire la paix. Je peux vous dire que ça a été une expérience de vie extraordinaire où j'ai retrouvé ma famille d'origine. Je suis en contact depuis ce temps-là. Ça fait déjà au moins 16-17 ans d'être ça. Je suis en contact avec ma famille d'origine. J'ai une relation vraiment intéressante avec chacun de mes frères et sœurs. C'est vraiment quelque chose, une richesse que j'ai dans ma vie qui m'est donnée pour avoir accepté de vivre ce simple programme-là. La vie va continuer, puis juste pour vous montrer à quel point c'est vrai quand que le programme fonctionne, un mois et demi après avoir rencontré cette dame-là qui m'a fait faire cette 4e étape-là, je reçois un courriel de mon ordre professionnel qui affiche en fait un emploi à l'ordre Et je regarde la description de tâche et ça m'intéresse. Alors, j'applique, j'envoie ma candidature, puis je reçois une convocation une semaine après pour aller faire l'entrevue. Et une semaine après l'entrevue, j'ai cet emploi-là que j'occupe depuis 14 ans. Un emploi que j'aime, dans lequel j'ai évolué de façon vraiment extraordinaire. J'ai toujours aimé ce que je faisais dans cet emploi-là. Et surtout, j'ai toujours eu la possibilité de laisser le monde du travail à sa place et non de prendre toute la place. Ça a été une expérience vraiment intéressante. Je vous dis ça parce que je trouve ça important de faire confiance quand on dit... dans la 11e étape, par la prière, la méditation, on recherche en fait à connaître davantage la volonté de Dieu, puis avoir le courage de l'exécuter. La volonté de Dieu, c'est la sienne et non la mienne, puis je peux pas faire passer mes attentes avant sa volonté. Et c'est ce que j'avais vécu qui m'a permis de développer cette expérience-là. Je suis retourné dans le milieu du travail, puis... j'ai reconstruit une nouvelle vie encore une fois. Et là, ça a été vraiment une vie remplie de belles expériences spirituelles avec le mode de vie des alcooliques anonymes. Mon expérience de 7 ans d'effort pour arriver à vraiment intégrer profondément le mode de vie des alcooliques anonymes m'avait donné cette force-là de faire passer en premier lieu ma paix intérieure que j'avais découverte dans une expérience spirituelle avec une membre. Comme objectif premier de chaque journée, de dire que je veux vivre chacune de mes journées dans cet état-là. Je vous dis pas que ça marche tous les jours, mais il reste quand même que quand en mettant cet objectif-là en premier, en me servant du mode de vie et surtout en cherchant à connaître la volonté de Dieu tous les jours, je peux vous dire que je donne pas grand place à mon ego, même s'il se manifeste de temps en temps. Et les peurs sont beaucoup moins fortes parce qu'on est vraiment, normalement, quand on n'est pas avec le mode de vie, en tant qu'alcoolique, en tout cas, moi, je suis si j'utilise pas le mode de vie, c'est l'ego qui va se manifester, ce sont les peurs qui vont se manifester et je vais tomber dans un trouble émotif épouvantable et je serai pas capable d'être heureux puis de vivre en paix.
Alors, merci, Pierre. Hein, on peut constater que... Oui, le mode de vie, quand on fait ce qu'on a à faire puis qu'on vient justement mettre en pratique les 12 étapes dans notre vie et qu'on fait notre 4e étape, chose que tu as faite avec cette sœur, ben on peut s'apercevoir que ça nous fait un bien énorme et que ça peut nous faire évoluer dans le mouvement des alcooliques anonymes. Alors, on va poursuivre sur cette évolution après la pause.
Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org.
Écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de Richard et son équipe.
Re-bienvenue au 4e segment de cette émission Un jour à la fois. Si tu es un auditeur et que tu aimerais en connaître davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes ou si tu connais une personne qui te semble être dans la détresse, tu peux toujours en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes en consultant le site aa-québec.com. .org, où tu trouveras, par exemple, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région qui te permettra de pouvoir parler et ainsi que la liste des réunions qui sont près de chez toi pour pouvoir aller assister à une réunion des alcooliques anonymes et une foule de réponses sur cette grande structure qu'est l'organisme des alcooliques anonymes. On va poursuivre avec le rétablissement de Pierre maintenant.
Alors, comme je disais, cette dernière 4e et 5e étape-là m'a amené vraiment à finaliser, en fait, fait un nettoyage complet de mon passé. Il nous suggère beaucoup dans la littérature, hein, dans le mode de vie, de faire la paix avec notre passé, de pas garder des affaires qui nous chicotent jour après jour parce qu'on les a pas réglées. Ça a réglé vraiment les derniers éléments qui me restaient de mon passé, moi, puis c'était des éléments très, très importants, ce qui m'a permis d'être capable de rentrer dans le programme en paix de façon différente, où j'ai vraiment choisi, ça a été mon choix, de ne jamais garder quelque chose qui est pas réglé dans ma vie jour après jour, pour éviter de toujours d'avoir quelque chose qui me dérangeait intérieurement parce que je l'ai pas réglé, parce que une telle m'a dit ça, un tel a fait ci, tout ça. Je les règle au fur et à mesure. Je peux vous dire aujourd'hui, moi, que j'ai un principe de vie qui est intéressant, que j'ai choisi parce que je le trouve intéressant. Ma paix passe avant tout. Je donne toujours comme exemple que je vais plutôt donner raison à quelqu'un qui veut vraiment avoir raison plutôt que de perdre ma paix. Je ne me mettrai pas à discuter avec. Je vais lui donner raison, ça va simplifier l'affaire. La vie a continué après ça, je peux vous dire que c'est pas parce qu'on arrive à un état moi j'appelle ça un état de grâce avec le programme des alcooliques anonymes, qu'il n'y a pas de difficultés qui se présentent dans la vie. Il y a tous les jours, en fait, il y a quelque chose qui se présente. Sauf que pour moi, le matin, quand je me lève, je choisis maintenant deux choses tous les matins en me levant. La première, c'est que je choisis de pas boire pour aujourd'hui. C'est important pour moi, même si j'ai 27 ans d'abstinence, parce que quand le matin des noces de mon fils, si j'avais choisi de ne pas boire cette journée-là, peut-être que j'aurais pensé à ne pas boire ce verre-là. Je le fais maintenant tous les jours, peu importe que j'aie 27 ans d'abstinence. L'autre choix que je fais tous les matins en me levant, en fait, c'est que je choisis d'être heureux pour aujourd'hui. Et le mode de vie des alcooliques anonymes me permet de faire ce choix-là tous les matins, parce que on nous dit dans la littérature, hein, on en parle beaucoup dans les réflexions quotidiennes du mois d'octobre, dès qu'il y a quelque chose qui nous trouble intérieurement, avant de chercher qui est le coupable à l'extérieur, il faut regarder en dedans de soi qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait qui fait ça nous met dans un état semblable, et d'abord et avant tout de régler ça. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. J'ai compris que tant et aussi longtemps que je règle pas ces états intérieurs-là, même si je vais aller régler quelque chose à l'extérieur, je serai pas dans un état pour bien le faire. Et ça fonctionne vraiment bien. Je vais terminer, en fait, en vous parlant de deux expériences. La première expérience, c'est qu'il y a 4 ou 5 ans, j'ai transformé ma propriété. J'avais une grosse propriété en SIC, puis j'ai transformé ma propriété en intergénération. J'avais des locataires, j'étais tanné de m'occuper de locataires, et j'ai transformé cette propriété-là en intergénération. J'ai invité mon fils aîné, qui a 5 enfants, à venir occuper le rez-de-chaussée. On a même agrandi la propriété pour qu'il puisse le faire. Et moi, j'ai pris le logement du deuxième, et je vous dirais que ça a été une expérience de vie qui continue aujourd'hui encore à se vivre de façon vraiment extraordinaire, où je suis en contact avec mes petits-enfants. J'étais un grand-papa, un papy, en fait, vraiment gâté. J'ai 9 petits-enfants, j'ai 2 arrière-petits-enfants. Je suis en contact avec ces jeunes-là qui m'apprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup à rester dans mon moment présent, parce que des enfants, c'est tout le temps dans leur moment présent, c'est pas ailleurs. Et quand je vis des choses avec eux, je peux vous dire qu'ils me font pratiquer d'aplomb le moment présent, même si c'est pour jouer juste à cachette, là. C'était une expérience extraordinaire, mais je vous dis ça parce que c'est quelque chose qui est important, dans le sens où si j'avais consommé, si j'étais resté dans mon ego malade, si j'avais continué à vouloir contrôler ma vie, je serais jamais arrivé à cette conclusion-là de désirer puis de faire en sorte que ça se passe si ça devait se passer. Ça n'a pas été facile de convaincre mon fils au départ, mais un coup que ça a été mis en branle et qu'on a fait ce projet-là, on l'a fait ensemble, puis on a eu un plaisir vraiment extraordinaire à le faire. Il y a toutes sortes d'autres expériences de vie. Je suis impliqué dans la business de mon plus jeune, où on a vraiment beaucoup de plaisir à travailler ensemble. On a un projet de société vraiment extraordinaire. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Il y a 3 ans, en fait, je me suis retrouvé encore sur un lit d'hôpital parce que ça semble que j'aime ça aller là, je ne sais pas pourquoi. Et on m'a fait 4 pontages. Et ce que je trouve intéressant dans ça, c'est que l'état dans lequel j'ai été, parce que j'ai été à l'hôpital pendant 3 semaines et demie, c'est que j'ai été en paix tout le temps. J'ai pas été dominé par aucune peur, j'ai pas été dominé par aucun ressentiment, j'ai accepté rapidement la situation et je l'ai bien vécu. Et je vais vous conter juste une anecdote par rapport à ça que j'aime raconter parce que je la trouve vraiment spéciale. Je suis couché sur le lit dans la salle d'opération, puis j'ai l'anesthésiste à côté de moi avec qui je jase parce qu'elle est en train de tout préparer pour m'envoyer loin là. Et on jase ensemble, puis tout à coup, elle s'arrête, puis elle me dit, est-ce que vous savez quelle sorte d'opération vous allez avoir? Puis là, je lui dis oui, je vais avoir 4 pontages. Puis elle dit, vous êtes calme de même? Puis là, j'ai répondu, sans réfléchir, je lui ai répondu oui, j'ai mon boss en haut qui s'occupe de moi, puis il n'y a pas de problème, il va s'occuper de ça. Puis je vous fais confiance, puis mon boss va vous surveiller. Puis elle est partie à rire un peu, puis elle a trouvé ça vraiment drôle, puis elle m'a dit, elle dit, vous me faites du bien. J'ai pas compris, c'est le coup. Et je suis parti. Évidemment, très, très loin. Puis le lendemain, elle est venue me voir dans ma chambre après l'opération et elle me dit « Je dois vous remercier parce que je passais une vraiment une mauvaise journée hier puis ma conversation avec vous m'a ramené dans un état où j'ai fini une journée vraiment agréablement. » On ne sait pas quand on peut faire du bien à quelqu'un, mais quand je mets le mode de vie en pratique, puis j'ai l'occasion de le faire très souvent dans mon travail, toujours des résultats étonnants parce que les gens sont surpris de voir comment on peut agir de cette façon-là. Et c'est quand même important. Puis quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais pas autonome parce que j'avais besoin d'aide. Et c'est 2 de mes fils qui sont venus s'occuper de moi à tour de rôle. Et je me sentais vraiment coupable, moi, de tout ça, parce que je les dérangeais. J'aime les aider, mais j'aime pas qu'ils m'aident. Ça me dérangeait. J'avais encore ce petit côté égo qui me dérangeait. Et je leur en ai parlé. Et ils vont me dire tous les deux, « Pat, tu penses-tu qu'on fait ça par obligation? Est-ce que tu peux comprendre à quel point on t'aime, à quel point on veut que tu sois bien, puis que c'est par amour qu'on le fait pour toi? » Ça a été une leçon de vie vraiment extraordinaire, parce que j'ai énormément de difficultés encore, moi, à me laisser aimer. Et cette expérience de vie-là m'a montré qu'il y a des gens qui nous aiment. On n'a pas besoin de faire quelque chose de spécial pour être aimé quand on est une personne qui est dans un mode de vie comme celui que nous est offert par Alcoolique Anonyme. Moi, je suis obligé de reconnaître que je suis reconnaissant envers Alcoolique Anonyme. Si on m'avait dit il y a 20 ans, il y a 30 ans que j'arriverais à atteindre un état de grâce comme ça avec le mode de vie des Alcooliques Anonymes, je vous dis pas que j'ai pas des journées difficiles. J'ai des journées difficiles. La COVID m'a fait vivre des choses vraiment difficiles, surtout au début quand on m'a dit que j'allais travailler, être en télétravail à l'âge que j'ai où ça me tentait pas vraiment d'apprendre à faire ça. Je peux vous dire que je suis devenu un pro du télétravail, puis j'ai de la misère à penser qu'un jour je retournerai au bureau, mais j'ai accepté à un certain moment donné de vivre l'expérience comme une nouvelle expérience de vie et non comme quelque chose qui m'était imposé. Et j'ai pris les moyens d'essayer d'apprécier toutes les expériences que je vivais, toutes les choses que je devais apprendre comme des nouvelles expériences de vie. Et ça, c'est le mode de vie des Alcooliques Anonymes qui montre encore à faire ça. J'ai atteint un niveau de liberté qui est vraiment particulier. Il y a la deuxième promesse qui nous dit « Nous connaîtrons une nouvelle liberté, il y a un nouveau bonheur. » Puis cette promesse-là, pour moi, est une promesse culte. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est pas une liberté d'être multimillionnaire pour pouvoir se payer n'importe quoi. C'est la liberté de choisir. La liberté de choisir d'être heureux et d'avoir les moyens de l'être une journée à la fois. Et c'est ce que m'apporte, en fait, le mode de vie des Alcooliques Anonymes. Je suis pas à l'abri des épreuves, je suis pas à l'abri des contrariétés, des inattendus. Tout comme je suis disponible à toute grande joie, tout grand bonheur dans la vie, mais une des conditions pour que je demeure en paix comme je le suis, c'est de vivre ça une journée à la fois. Une journée à la fois et pas d'autre chose. Et le mode de vie des Alcooliques Anonymes est fait pour ça. Le restant, j'ai aucun pouvoir sur ce qui s'est passé dans mon passé, puis je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir me réserve, mais aujourd'hui, je sais que je peux vivre cette journée-là en paix, heureux, malgré les choses que j'aurai à vivre. Et je vous dis un gros merci.
Alors, merci Pierre pour ce merveilleux témoignage, bien rempli. Tu es venu nous parler justement du mode de vie que tu pratiques et que tu peux mettre dans tous les domaines de sa vie. Parce que c'est pas juste de le mettre pour se défaire des problèmes qu'on a avec l'alcool, mais c'est aussi de le mettre dans notre vie, tel que toi, tu avais beaucoup de difficultés à lâcher prise sur ton travail devenait accaparant, il t'envoyait dans des ivresses mentales, ben tu as pu mettre ton mode de vie en pratique sur cet aspect-là de ta vie, et ça a donné le merveilleux monsieur que j'ai devant moi, qui est rempli d'une belle joie de vivre, qui est rempli d'acceptation sur ce que la vie lui apporte. Et je te remercie de ça, d'être venu nous livrer ce merveilleux message. Je tiens aussi à remercier tous les participants à cette émission, à nos auditeurs qui nous écoutaient, à toute l'équipe qui travaille derrière les micros, ainsi qu'à nos collaborateurs, nos radiodiffuseurs. Je me nomme Richard. À la semaine prochaine.